Bonsoir à tous, vous êtes sur Calade Ma Radio, le 100.9. Belle année à tous, bonne année à tous, 2026. Et qui dit nouvelle année dit quoi? Dit nouvelle émission, c'est superflu. Voilà, on se découvre ce soir, c'est la première. C'est VV.
On se découvre, mais on va rester voilà. Liés, non?
C'est là, on est plusieurs autour de la table, hein. Vous l'avez déjà entendu, j'ai même pas pu faire la surprise. Mais voilà, c'est Val au micro. Autour de la table, il y a du monde, j'y arrive. Alex est là, bonsoir Alex.
Bonsoir à tous et bonne année.
Et alors on va faire quand même un petit peu de présentation de Superflu. Donc c'est un petit peu le retour un peu du sport sur Calade Ma Radio. Après Effet Sport il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, on va parler de sport de manière un petit peu détendue entre
exactement,
nous,
ouais.
Comme si on était dans un bar ou quoi que ce soit. Voilà, donc Effet Sport.
D'autant qu'on prétendra à aucun moment qu'on a raison.
C'est ça, on prétend rien du tout. On n'est pas là pour ça. Voilà. Ça y est là.
Bonsoir à tous.
Voilà, donc on va avoir une petite intro comme ça où on va dire de quoi on va pas parler tous les soirs. Donc voilà. On commence par toi, Alex.
Eh ben moi, je vous parlerai pas de Manchester United qui a viré son coach un an après l'avoir recruté pour 15 millions d'euros. Rien que ça.
Oui. Ben moi, je vous parlerai pas du mercato hivernal. Du foot aussi, parce qu'il serait vraiment intéressant, ce serait de transférer l'intérêt et l'attention sur d'autres sports et pratiques, autant voire plus intéressants que le foot qui prend toute la place.
Puis de toute façon, les clubs français n'ont pas de sous, donc il n'y aura pas de mercato.
Oui, c'est vrai qu'il y a ça en plus cette année. Voilà, avec des vraies stars, d'autres trucs avec de vraies stars, des vraies performances, des choses comme ça, s'ouvrir un peu à tout ça. Possiblement que cet après-midi, enfin là, on va parler d'autre chose. Ha! On va voir ça. Simon, de quoi tu nous parles pas, Sai?
Je crois que je vous parlerai pas de planche à voile.
De planche à voile.
Parce que c'est...
Ah mince, moi non plus, j'en parle pas.
C'est pas la saison, quoi. Voilà. Donc, avant 6 mois.
T'es pas courageux.
La saison. Et bien, en tout cas, on va commencer tout de suite avec... On va faire des parties qui ont lien avec du sport, et ça, c'est fou. C'est l'échauffement. Voilà, choisis ton camp. L'échauffement.
Voilà, et pour l'échauffement, on va commencer par parler de sport mécanique, puisque c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Et en sport mécanique, le pinacle, c'est la Formule 1. C'est là qu'on va trouver les plus grands héros, les plus grands pilotes, les vraies légendes du sport auto. Cependant, quand ces héros, ils s'essayent au rallye, c'est incroyable, mais ils se plantent tout le temps, à chaque fois.
Et des exemples peut-être de quoi?
Des exemples, et ben on a Kimi Raikkonen, champion du monde de Formule 1, qui a été bidon en rallye. On a Kubica qui a eu un accident qui lui a coûté sa carrière. Donc voilà, c'est rarement une réussite. Alors que quand ils partent dans d'autres disciplines, ils gagnent. Comme au Mans, par exemple, des gars qui n'ont jamais rien fait en Formule 1 ont réussi à gagner le Mans. Alonso fait des super prestations en IndyCar. Et par contre, quand ils essayent au rallye, ça se passe mal. Et au rallye, il y a un pays, modeste pays, qui a des tonnes de champions, c'est la Finlande. Je pense que vous avez tous entendu parler de champions de rallye finlandais. Et malgré tout, les deux goats du rallye sont français, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Et donc la question du jour, c'est lequel des deux est le meilleur, puisqu'ils ont, depuis pas longtemps, 9 titres WRC chacun.
Voilà, parce que cette partie, c'est donc « Choisis ton camp ». Et là, on est plusieurs, donc on va pouvoir débattre... chacun son camp malgré tout.
Plein de mauvaises foi, bien évidemment.
Voilà, on va dire ce qu'on pense et c'est pour ça qu'on est là. Il y a déjà, voilà, Sébastien, tu les as nommés ou déjà?
Je les ai nommés, ouais. Les deux Sébastien.
Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. Donc les deux Seb, la baston des Seb. Voilà, donc si je peux... Et elle est belle, et Sébastien. Mais, en tout cas, qu'est-ce qui se passe?
Applaudissements.
Donc Sébastien Ogier, Sébastien Loeb. Voilà, il y aura deux camps. Donc il y a un troisième qui peut choisir un des camps, voilà.
Tu vas arbitrer.
Tu peux possiblement arbitrer. T'es plutôt Loeb, on va pas se le cacher, Alex.
Ah moi clairement pour moi il y a même pas de débat en fait.
Écoute, moi je vais débattre parce que je suis plutôt Ogier. Voilà, on va parler de tout ça. Toi tu serais plutôt Simon sur du.
Ah moi j'aime bien le petit Loeb hein, quand même. Enfin le grand Loeb.
Le petit Loeb
d'oreille.
Est-ce que
c'est ton côté musicien, c'est pour ça.
Eh ben on va commencer ce débat par toi, Alex.
Qu'est-ce qui me fait dire que Loeb est pour moi le meilleur?
Peut-être refaire un petit peu leur palmarès, vas-y.
Alors, sachant qu'on va quand même être unanime, hein, les deux sont des monstres.
C'est ça.
Voilà, on va pas dire qu'il y en a un qui est bidon et pas l'autre.
Bah après voilà, c'est donc si on parle de WRC seulement, donc Loeb c'est 9 titres, Ogier depuis cette année, c'est 9 titres aussi.
Voilà, depuis un mois ou deux, ouais.
Voilà, donc il y a une égalité là-dessus. Après au niveau des victoires, c'est 80 victoires pour Loeb, 67 pour Ogier, 120 podiums pour Loeb, 115 pour Ogier. Donc on voit quand même ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Voilà, ça se démarque un petit peu au niveau de leur vie. Donc Ogier, je vais parler de lui en premier parce que c'est lui que je défends.
Oui, c'est ton chouchou.
Donc, il vient d'un milieu modeste avec des parents qui n'étaient pas du tout dans la course automobile, donc rien l'amenait à aller là-dessus. Mais voilà, il a quand même eu un BTS mécanique, donc le petit lien se joue peut-être là-dessus. Et ce qui l'a amené derrière à se tenter sur des premiers volants, et ça a tout de suite marché, il a tout de suite été repéré, et il a été champion du monde junior, et derrière il a enchaîné du coup rapidement sur le WRC. Et les victoires. Après, il y a moins de victoires d'affilée comme Loeb, parce que tu vas peut-être venir toi. Parce que Loeb, pareil, il a des parents pas du tout là-dedans non plus, mais il a voulu aussi se tenter au volant, et lui aussi, bah voilà, plutôt une bonne idée au final.
Merci Citroën d'ailleurs, qui les a formés un petit peu au rallye tous les deux.
Vas-y, Loeb, on y va.
Donc Loeb, Loeb, pour le coup, je vous le présente moins, puisque comme c'est le meilleur, vous le connaissez tous. Loeb, c'est un truc tout simple, mais dès son premier rallye, il a gagné en fait. Alors, il n'a pas gagné officiellement puisque il a été sanctionné à cause d'une erreur de son équipe, mais c'est une erreur qui ne l'a pas aidé à gagner. Sans ça, il aurait gagné quand même. Donc voilà, c'est incroyable. Loeb, pour moi, c'est le meilleur parce que il avait une concurrence que les autres. Enfin, il avait une concurrence démentielle. Je vais vous citer voilà des Peter Solberg, Carlos Sainz, Marcus Grönholm, Colin McRae, Dani Sordo, Hirvonen, Latvala. C'est tous des pilotes qui vous parle.
Parce que la génération a joué avec Colin McRae.
Évidemment. Loeb, il a gagné alors que Ford, Mitsubishi, Subaru, Peugeot étaient à fond sur le rallye. Alors que pour le coup, Ogier, pour moi, quand il a gagné, il n'y avait pas autant de concurrence au niveau des constructeurs. D'ailleurs, les Japonais n'y étaient presque plus, même si Toyota commence à revenir. Voilà. Alors que Ogier, lui, il a perdu contre Tanak, Rovenpara et Thierry Neuville.
C'est quand même pas le même niveau.
Je suis en train de te défendre Loeb. Loeb, il a tapé les meilleurs. Il a tapé certains des pilotes les plus historiques à un moment où il y avait une densité qui était incroyable. Et non seulement il les a tapés, mais il les a tapés 9 ans d'affilée. Il a tapé pendant 9 ans des monstres. Alors que Ogier, lui, pendant 9 ans, il a tapé des gens que, aujourd'hui, personne ne connaît. Donc, pour moi, il n'y a pas photo, en fait.
Après, est-ce que, malgré tout, on n'est pas sur quelqu'un qui a... Ok, Loeb, j'entends ce côté... cette aura, en plus, qui est autour de lui. Il a gagné 9 fois d'affilée. Bon, mais Ogier, malgré tout, il a fait un travail là-dessus. Il a gagné tous ses titres, pas pour rien. C'est pas que des tocards en face de lui. C'est pas que des mecs qui conduisent des bus le reste de l'année. Mais bon. Et puis... Bah, ce qui me gêne en fait là-dedans, c'est en effet Loeb, il est ce qu'il est, mais c'est je trouve qu'on sous-estime en fait ce qu'a pu faire Ogier, parce que c'est quand même 9 victoires au championnat du monde, ce qui est le record à égalité avec.
Il a pas roulé contre des conducteurs de bus. Bah non, mais pas loin quand même.
J'ai pas les noms qui me sont là en tête, mais il me semble.
Ah bah moi je te dis, il a perdu contre Tanak, Rovenpara et Thierry Neuville.
Cette année, c'était quelque chose de un peu plus.
Cette année, il a eu un peu plus de mal, oui, mais parce que il est moins bien que Loeb, parce que Loeb cette année, au top de sa carrière, il les aurait tapés. Bah d'ailleurs, c'est pas compliqué. La première année où Ogier a gagné son championnat du monde, donc la première année que Loeb a perdu, en fait Loeb il a fait que 4 courses cette année-là. Et il en a gagné 2 sur les 4, et l'autre, il a fini 2e. Donc, en gros, Loeb, il aurait continué, il aurait un 10e titre, et Ogier n'en aurait un de moins. Pour moi, il n'y a pas photo, en fait.
L'arbitre, Simon, Sai, comment...
Il y en a un qui est plus convaincant que l'autre.
Je valide, tout à fait.
Après, j'ai eu la chance aussi de voir Sébastien Loeb, alors peut'être que c'est ainsi
en
pour
vrai,
ça. En vrai, ouais, je l'ai vu rouler au rallye d'Alsace, ouais. Et on sentait qu'il avait quand même un truc en plus. Alors c'est l'année où il se met à l'envers, il finit sur le toit, mais on sentait quand même que dans les virages, tu voyais qu'il passait plus fort que les autres.
Mais c'était vu Sébastien Ogier aussi.
L'année où Ogier gagne le titre. J'ai vu Ogier aussi, il est quand même au-dessus. Et puis il n'y a pas à dire, il a 9 titres de champion du monde. T'arrives pas à ce niveau-là si t'es une remorque, une brouette. Il n'y a pas à dire, Ogier est un monstre. c'est sûr. 9 titres de champion du monde, quelle que soit la discipline, ça se gagne pas comme ça.
Il a 41 ans. Enfin, je sais pas à quel moment t'arrêtes vraiment en rallye, mais là, il en est pas non plus si loin.
Il est sur la fin quand même. Mais ouais. Bon, si
est-ce qu'il peut battre le record de l'Eb?
Il peut le battre cette année puisqu'il a décidé d'y retourner. Donc, il peut le battre.
Est-ce que ça ferait de lui possiblement le GOAT s'il battait le record ou même pas?
Bah, pour moi, toujours pas, parce que comme je t'ai dit, la plupart de ses titres, et encore là, cette année, s'il gagne, enfin, l'année 2026, s'il remporte le championnat, c'est pas face à grand monde, il y a plus trop d'écuries qui se battent, et en plus il a souvent gagné sur la meilleure voiture, chose que Loeb a pas toujours fait. Loeb souvent il a parfois gagné en n'ayant pas la meilleure voiture. Pour moi Loeb restera au-dessus parce que mine de rien quand tu fais la diff par rapport à ton véhicule, ça te rend encore plus grand.
Est-ce qu'on finirait pas quand même sur un petit mot gentil sur Sébastien Ogier?
Non mais Ogier est un monstre, il y a pas à dire, c'est un super pilote. Il nous tape tous, même les yeux fermés. Voilà, c'est un super pilote.
Non, surtout sur ses débuts de jeune, il a tout de suite performé en fait. C'est
moins club.
Dès sa première, il était sur une.
L'année 1 de Citroën, première course, il a gagné. Il a été plus vite que les. Il a pas gagné, mais il a été plus vite que les autres. C'est incroyable. C'est un talent, mais c'est fou. Ogier est un super pilote, il est brillant, en plus il a un style de pilotage qui me plaît, il est très tactique, mais pour moi il est un cran en dessous. Mais alors attention, on est un cran en dessous du dieu du rallye, donc c'est fantastique.
Il n'y a toujours pas la vidéo, mais ça y acquiesce. Donc, ouais. Je pense que, voilà, est-ce qu'on veut un vrai gagnant? Je ne sais pas, moi. Vas-y. Vas-y.
Non, je dis juste que moi j'étais en stage,
T'es en stage, oui, mais bon, tu peux.
Alors tu sauras que les.
C'est radio libre du sport, hein, faut le savoir.
Les différentes étapes de rallye, on appelle ça des stages.
Des stages, voilà.
En plus, figure-toi.
Tu vois, j'apprends vite.
Eh hein. Ben, sur les mots, on va se faire une première petite pause quand même avec Bécane de Yamé. Voilà. C'était l'échauffement, je pense qu'on est pas trop mal là.
Ah, on est bien chaud là.
Donc on revient tout de suite.
Moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les ondits, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sur les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. Nindé sans cara, sans chicot, ouais je fais qu'écro bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Tu bandes tout me parle. Pas de pas années, on n'est pas venu ici pour se pavaner. Remballe ta CGM CC. Je tourne la poignée, je froisse le temps. Je roule comme si caca m'attend. Je cale pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Je chante la bécane. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Chant de l'enfer sur un gros fer. La craide a focalisé la haine que je ressens dans mes pensées. Dans ce business balisé, ouais. Chant la bécani, cani. Ouh. Et chant la bécani, cani. Ouh. Cani, di, di, de, de. Je me la beuh. Chant la bécani.
Bah ouais. radio.
Deuxième partie de Superflu, la première de Superflu, incroyable, c'est magnifique, on est trois. Et bon, pour faire un petit peu, hein, rester là-dessus sur la présentation, on pourrait être plus, et ça peut varier au niveau des chroniqueurs, je sais pas comment on les appelle, ou des qui viennent dire des trucs. Mais...
Ça changera, vous aurez pas toujours les mêmes voix, pas toujours les mêmes parties.
Ouais, bon, on l'espère en tout cas. Non mais la deuxième partie, on s'est bien échauffé, le coup d'envoi, le débat de comptoir. C'est la première, on a le droit à un petit peu des erreurs. Non,
ouais,
c'est
pas... ouais.
Bon, allez.
Première faute.
Débat de comptoir.
Agressif.
Alors, voilà. Ça sera à base d'une question basique, de base. Ça fait deux fois que je le dis. Aujourd'hui, la question, un champion doit-il être sympa? Et là, je pense qu'il y a des choses à dire. Même ça, il en a plein.
Et tu penses à qui en particulier?
Eh ben justement, est-ce qu'on peut aller sur des idées comme ça? Est-ce qu'on part tout de suite sur les gens, sur les sportifs qui ont une mauvaise réputation, sur ces choses-là? Moi, si je peux parler de ce que je connais, je peux parler de Kobe Bryant par exemple, qui est mitigé, c'est une légende du basket.
Tu vas dire du mal d'un mort?
Exactement, j'allais dire voilà. Déjà, bon, il est mort, voilà, décédé d'un accident d'un hélico, hélico perso. Enfin bon, bref, il y a quelques années déjà. Mais moi, j'ai suivi toute sa carrière en tant que joueur, et c'est vrai que je faisais partie de ceux, je sais pas si on a beaucoup en même temps, peut-être que je m'avance là-dessus, mais qui était pas forcément très friand de Kobe, sur autant sa personnalité que sur son jeu, qui était plutôt basé sur l'individualisme.
Enfin, pareil, mais là on parle pas de jeu, en fait. Le débat parle pas sur le jeu.
C'est pour ça que je parle de sa personnalité, qui était liée à son jeu, pour moi, c'est pour ça que je dis ça, qui était un petit peu voilà, qui s'est fait souvent des ennemis dans sa propre équipe, par exemple. On peut parler du Shaq à une certaine époque où il pouvait plus blairer à un moment donné quand même. Mais malgré tout, aujourd'hui, bah voilà, ça reste Kobe, l'un des meilleurs scoreurs de l'histoire. Enfin voilà, c'est un exemple qui vient comme ça, et puis en avoir d'autres qui vont dans l'inverse, comme Usain Bolt par exemple. Est-ce que Usain Bolt, c'est une question, c'est un gars qui est unanime au niveau de la...
Ah bah j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité au niveau de sa sympathie, oui. Alors peut-être qu'on peut regretter le fait qu'il se donne pas toujours à fond, notamment quand il bat des records du monde, mais ça c'est encore un autre débat.
Ouais, enfin sur son record sur le 100 mètres, il est quand même là sur quelque chose qui sera peut-être un jour atteint, mais là ça semble complètement intouchable. Après voilà.
C'est... Ah bah aujourd'hui c'est oui inenvisageable. Et puis c'est stratosphérique ce qu'il a fait, mais.
Mais justement, parce que ce qui peut aussi un peu agacer, c'est ce côté un peu chaud qu'il pouvait faire. Après, on sait que les coureurs de 100 mètres, ils sont tous dans le chaud. C'est pas des coureurs de 1000 de 1500, des choses comme ça.
En même temps, ils bossent 10 secondes et ils s'arrêtent, donc ils ont le temps de faire le chaud, oui.
Voilà. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça peut agacer, ça peut énerver certains. Mais là, on a l'impression que Usain Bolt, pas forcément. Justement, on était dans l'attente de ces fameuses célébrations, ces fameux débuts, enfin début de course, ces choses comme ça.
Alors après, faut se méfier parce qu'il y en a qui tombent dans la guignolerie justement parfois en voulant faire le show, en voulant faire les cakes. Et puis, alors il y a la double lame du rasoir, c'est quand ils échouent. Bah là, pour le coup, ils passent pour des tocards. Mais voilà, il faut qu'ils soient eux-mêmes en fait. Un champion doit rester lui-même. Alors c'est sûr que quand t'as des champions un peu antipathiques, comme tu citais Kobe Bryant, moi je pense notamment à Michael Schumacher ou il y en a eu d'autres, hein,
ouais,
qui sont pas ultra sympathiques. Bon, ils sont eux-mêmes, donc au final ils ont raison. Ça, et puis ça leur crée, ça leur permet peut-être aussi d'être comme eux, comme ça, d'être plus performant. Parce que mine de rien, on a beau être un champion, il faut quand même performer du mieux qu'on peut. C'est juste ce que je reprochais à Usain Bolt il y a quelques secondes. Il aurait pu faire encore mieux, je pense, parce qu'il, sur ce record du monde, la fantastique, à 9,58, c'est ça
ouais,
il ralentit sur la fin, alors que, bah, mec, fonce, même si t'as de l'avance.
Oui, après, ouais. Ouais. Faut se rendre compte quand même de la perf, mais c'est vrai, quoi, oui. Après, ouais. Ça aurait été 56, allez, bon.
Oui, bah, écoute, oui, bah, il aurait pu faire mieux, voilà.
Ok. Après voilà, on va pas parler que du Usain Bolt, mais c'est vrai que sur l'inverse, pareil, Lyon Marchand, on a vu sur les JO, ça a été, mais voilà, le nouveau presque président de la République, si on pouvait l'élire à ce moment-là, il aurait été élu largement. Enfin, ça a été une Lyon Marchand mania pendant ces JO, en tout cas.
Oui.
Voilà, bon.
Non mais alors, un champion sympathique sera toujours plus apprécié qu'un champion antipathique. Ça, il n'y a pas de débat.
Eh ben, justement, je n'en suis pas forcément sûr comme ça, parce que est-ce que des fois en faire trop, provoquer, enfin,
ouais, mais la différence,
dans le trash talking, si on doit parler de ça, enfin, les mots un peu durs sur le terrain, est-ce que ça amène pas de la sympathie malgré tout? Alors, que ça crée pas une star, justement, juste ça.
Moi, je te prends l'exemple Guardiola ou Mourinho, qui, alors, pour le coup, dans le trash talking sur le football, Real Madrid, Barça à l'époque, ça y allait. En plus, ils s'affrontaient 5 ou 6 fois par an. Au bout d'un moment, ça te saoule. Au bout d'un moment, quand tu passes la moitié de ton temps en public à dénigrer l'autre, bah, tu perds en sympathie parce que, enfin, déjà, parfois, tu perds. Donc, tu passes pour un guignol. Et puis, c'est pas toujours ce qu'on a envie de voir. Alors, j'ai pas envie d'être un oui-oui, de dire qu'il faut que tout le monde soit gentil. C'est pas ça non plus. Mais, un champion qui gagne et qui est sympa, qui est souriant, qui est, mais sans devenir un guignol non plus, ça reste quand même un peu plus vendeur. T'as plus envie d'aller vers quelqu'un qui va être souriant, agréable, qui va venir vers toi, que quelqu'un qui va s'enfermer dans une bulle et tirer la tronche.
Après, voilà, moi, sur ce que je parlais justement tout à l'heure, je vais te lancer un petit peu, Saïs. Tiens-toi prêt, parce que je sais que tu connais le sujet. Conor McGregor, qu'est-ce qu'on en pense? C'est le mec qui provoque à fond le trash-talking, à fond. Malgré tout, est-ce qu'il n'a pas un capital sympathie aujourd'hui? Quand même, un minimum, quoi.
Avec tous ses derniers déboires...
Oui, ça... mais à sa grande époque, on va dire.
Ouais, il était intouchable, quoi, sa grande époque. Il était bankable, enfin, voilà.
Voilà, ça crée
donc
quand
forcément...
Même...
Il créait le truc, quoi. Donc, ça attirait tout le monde. C'était un aimant à projecteur. Voilà. C'était l'élu de ceux qui avaient envie de, voilà.
Mais sans être sympa pour autant, quoi. C'est ça, c'est surtout ça. C'est que du coup, il était même pas sympa. Il
trachait. Alors, et puis, le contexte du sport, de ce sport, voilà, qui est quand même des
alors, combats, je suis pas d'accord avec toi, en plus, parce que pour moi, il avait un côté sympa quand même. Il était dans le trash talking, il était dans la provoque, mais il faisait ça avec un sourire toujours. Puis c'est le genre de mec qui allait vers son public, qui donne à son public. C'est pas comme d'autres qui s'enferment dans une bulle ou qui vont faire la gueule.
Moi, ça pue le mégalo pour moi.
Tu peux faire, ouais, mais
tu regardes tout.
Oui, mais tu peux faire du trash talking, tu peux, dénigrer ton adversaire, tu peux fanfaronner un petit peu, tout en restant proche de ton public.
Ah, il était proche, ouais. Tu trouves qu'il était pas proche de son public?
Bah, si, justement. Ouais, McGregor, je trouvais qu'il était proche de son public, il donnait beaucoup, il faisait beaucoup d'interviews.
C'était pour son propre intérêt, je trouvais, mais après, mais peut-être.
Bah, c'était un showman, hein.
Oui, c'est un showman.
Oui, c'est ça, voilà.
En plus d'être le meilleur combattant, c'était un.
Là où tu en vois d'autres, je sais pas, moi je pense à Tiger Woods par exemple, qui est un grand champion aussi, qui donne pas trop d'interviews, qui fait pas trop de...
Lui, plutôt discret.
Plutôt discret. Bah, c'est moins sympa.
Ça fait moins envie, oui, c'est vrai.
Voilà. Et puis justement, je reviens sur McGregor, tu parlais des déboires de McGregor actuel, bah ça, pour moi, ça le rend humain. Parce qu'un champion, il a un côté divin, il a un côté déshumanisé, il est au-dessus de la mêlée. Bah, derrière, quand il fait des conneries, parce que là, pour le coup, pour moi, ça lui redonne un côté humain et ça me le fait l'apprécier un peu plus.
Ouais, mais quand on voit, il y a eu ce combat de légende, là, en 2018, peu importe, avec Khabib, de l'époque, je ne sortirai pas son nom de famille. Je sais sans doute mieux.
Yurmanogenov.
Voilà, exactement. Il y a eu ce combat avec, McGregor, enfin, pas au sommet de son art, mais presque. Enfin, c'était 2018, c'est ça. Et puis, Khabib, qui était invaincu, qui était le monstre de, mais qu'on parlait pas forcément plus que ça, en fait. Mm-hmm. Moi, j'ai presque découvert Khabib sur ce combat-là, en fait. Mm-hmm. Et pourtant, le gars, légende.
Quand tu connais un peu les arts martiaux, tu savais que
mais
c'était pas un tocard non plus.
Était pas plus, est-ce qu'il était sympa déjà, Khabib? Est-ce qu'on peut dire ça, par exemple?
Il est pas antipathique, mais bon, lui, pour le coup, il était un peu fermé, un peu discret. Faut dire aussi que quand tu viens du Daghestan, t'es pas non plus exposé comme un Américain ou un Irlandais, donc.
Ouais, après, il y en a qui savent quand même faire un petit peu plus, mais enfin, c'est pas trop leur.
C'est pas trop la culture.
Voilà. Il y avait ce dernier point quand même, c'est la question qui m'est venue en préparant, c'est est-ce que, j'ai un peu la réponse, un champion qui gagne trop, il devient pas détestable?
Ça, c'est vachement culturel comme question. Parce que tu vois, en France, on aime voir perdre les champions.
Oui.
Tu as Lance Armstrong, on rêvait qu'une chose, c'était de le voir perdre. Aux États-Unis, c'est le contraire. Aux USA ou dans le monde anglo-saxon, plus tu gagnes, plus t'es sympa, enfin, plus t'es apprécié. Tu vois ce que je veux dire?
Après, je sais pas si, parce que là, moi, j'ai un exemple concret, j'ai une réponse à ma propre question. Si on prend le trio de tennis, Nadal, Djoko, Federer, on sait que les trois, en ayant tout gagné à des périodes tous les trois, ils sont pas au même niveau de sympathie. On sait que Federer, il a tout le temps été il fait quasiment l'unanimité, on est d'accord. Djoko, loin de là. Et Nadal, il était mitigé. Il y a un peu les trois exemples. Donc qu'est-ce qui explique ça sur les trois, justement? Qu'est-ce qui fait que Federer était... tout le monde aime Federer. Djoko, voilà. Et puis Nadal, pareil, mitigé. Enfin...
Alors Djoko, justement, qui, à mon sens, en faisait un peu trop au début de sa carrière.
Oui.
Avec ses imitations, tout ça, c'était... Moi, ça me dérange toujours un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas le monde du tennis. Le monde du tennis, c'est quelque chose qui est propre, qui est lisse, qui fait pas de vagues. C'est un peu pour ça que Federer, d'ailleurs, qui a une classe, mais qui est, voilà. Je suis pas team Federer, hein. Moi, c'est plutôt Nadal, d'ailleurs. Qui, pour le coup, est peut-être même le moins sympa des trois, mais c'est pas grave. Enfin, il est propre, il fait pas de vagues pour le coup non plus, mais bon, il donne à Paris, mais voilà. Federer, quelle classe, quel
c'est
talent.
La classe, oui, voilà.
C'est le talent brut, donc t'es forcément...
Mais est-ce que c'est pas son jeu qui a suffi à tout ça? Parce qu'en fin
de compte, mais ça,
ses sorties, elles sont pas très remarquées non plus.
Mais oui, ouais, mais c'est... à chaque fois qu'il est en public, il est souriant, il dénigre pas les signer des autographes, faire des... Voilà, il donne un petit peu d'interview quand même. Enfin, il a ce côté sympathique, quoi.
Bah moi, c'est vrai que... C'est le dernier point que je vais l'atteindre aussi, mais Nadal aujourd'hui j'ai un respect monumental pour lui.
Évidemment.
Mais pendant qu'il jouait, ça m'agaçait de le voir gagner parce que il y a ce côté un peu, je sais pas, qui
de Federer.
J'étais content de le voir jouer, content de le voir gagner. Il y avait pas de problème avec ça.
Ouais, mais
du coup, j'ai jamais eu de problème.
Ça vient du jeu ou de la personnalité? Alors c'est vrai que le jeu de Nadal est pas très académique non plus.
Alors moi je sais pas si je suis académique dans le sport justement, donc ça pourrait être l'inverse, ça aurait pu me plaire, mais je sais pas, il y avait ce côté peut-être trop enfermé, trop, je sais pas. Mais justement, ça en vient au dernier point. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, ça, là-dessus? Sur les trois, non? Pas forcément.
Pas forcément.
Justement, est-ce que on parlait de gars comme McGregor, tout ça, qui sont pas forcément, enfin, qui font tout pour être détestables ou pas aimés, même pendant leur carrière. Une fois à la retraite, est-ce qu'ils deviennent pas légendaires? Comme moi, par exemple, Nadal, c'est l'exemple que j'ai là. Après,
Attends, qui sont légendaires avant la fin de leur carrière.
Oui, mais non, mais c'est justement ceux qui ont pas été aimés pendant leur carrière et qui sont, une fois à la retraite, on a un souvenir d'eux plus à dire, bah ouais, mais en fait, ce gars-là, voilà quoi, c'était un monstre.
Bon, enfin, après, Nadal, il a pas non plus attendu de, à son 10e Roland Garros, c'était déjà une légende.
Oui, non, mais c'est pas la question, c'est ce qu'il devient pas dans la tête des
plus
gens.
Plus sympathique
et tout ça.
Parce qu'on le voit moins, alors il y a peut-être un effet de manque, mais.
C'est un peu ça. Moi, depuis voir Nadal à Roland Garros, ça va me faire bizarre.
Ça te manque.
Oui, voilà.
Oui.
Enfin, ça m'a fait.
Là, il y a Alcaraz, c'est plus ou moins le même.
Ouais, oh, oulala.
Alcaraz qui est incomparablement plus sympathique qu'Alcaraz.
C'est vrai que j'ai rien contre. Oui, j'aime plutôt bien ce joueur. Après, là, c'est la team. C'est encore un autre débat. C'est team l'Italien. Je l'ai plus. Voilà.
L'Italien, c'est oui. Mince.
Yannick Sinner contre Carlos Alcaraz. C'est le nouveau truc qui se prie. Maintenant, ils sont très jeunes les deux.
Peut-être notre prochain débat de qui est le meilleur.
Exactement. Ça va venir. Faudra s'habituer. Voilà pour ce débat. Est-ce qu'on a
J'ai une petite question. Vas-y, moi pour et Jordan, il était sympathique. J'ai pas trop l'impression.
Alors Jordan. Ça rejoint plusieurs des questions qu'on s'est données là, parce qu'il était détestable sur un terrain, tout le monde, il en était même
et dans le vestiaire aussi, j'ai cru comprendre.
Sur le vestiaire aussi, parce qu'il était d'une exigence incroyable, et les entraînements avec Jordan, c'était un calvaire, parce que même à l'entraînement, il ne pouvait pas perdre, il ne pouvait pas, c'était incroyable, et c'est surtout qu'il avait un impact psychologique sur les joueurs, même les plus grosses stars de l'époque, de savoir qu'ils allaient jouer contre Jordan, ça les rendait dingues, en fait. Et ils pouvaient faire des matchs horribles parce qu'ils jouaient contre Jordan. Donc, vis-à-vis de ses adversaires, c'était horrible. Mais malgré tout, sur le public, Jordan, pour moi, c'est l'unanimité, malgré tout. Il a jamais été plus détesté que ça. À part les vrais fans de franchises, comme par exemple les Detroit de l'époque.
Boston,
qui pouvaient, les Pistons de Detroit, qui pouvaient détester Jordan parce que, il tapait les Pistons tous les ans. Donc voilà.
Ok.
Pour répondre à
ça. C'est quand même mieux quand ils sont sympas, faut avouer. Ouais.
Moi, j'aime bien Benoît Paire, par exemple. Enfin, c'est...
Oui, non, mais, ouais, mais ils nous font rigoler, mais il serait champion,
ouais,
ça nous saurait.
On n'en serait
pas fiers s'il était champion de tout ce qu'il gagnait.
Ouais, mais est-ce que des fois, ça fait pas du bien de quelqu'un qui vient un peu bousculer ce côté un peu guindé de tous les sports? Je parle même pas que du tennis, de tous les sports, d'aller percer un peu les choses. Un Gattuso, t'as adoré Gattuso?
Oui, j'adorais Gattuso, bien évidemment. Mais Gattuso, il avait un côté sympa, c'est qu'il te cassait une jambe, mais derrière, il souriait, puis il venait prendre des nouvelles.
Ouais, mais je pense que pas le plus.
C'est pas le plus antipathique. Non, c'était un chien de la casse, mais c'était pas le plus antipathique. T'avais un Roy Keane qui était on ne peut plus antipathique.
Voilà,
pour le coup,
aimer Roy Keane, c'est faux.
Ah mais j'adore Roy Keane, mais bon, quand t'aimes Manchester United, t'aimes forcément Roy Keane.
Bon, voilà.
Non, mais c'est mieux. Un champion quand il est sympathique, c'est mieux. Et quand c'est vrai. Moi, c'est ce que je reproche un peu à Kylian Mbappé, des fois. C'est que ça a pas l'air sincère.
On parle pas de Mbappé, mais lui, c'est vrai qu'il divise pas mal, quand même, au niveau. Est-ce que, Comment tu le vois, toi? Ça est sympathique ou pas du tout détestable?
S'il pouvait être aussi drôle que Cédric Doumbé, s'il pouvait tous faire pareil.
Ah, Cédric Doumbé, voilà, très bon exemple, on n'en parle pas, mais lui, c'est vrai que c'est. Il est plutôt apprécié, Cédric Doumbé, dans tous ses déboires de provocation, machin, tout ça, qu'on voit qu'il arrive à faire crier toute la Core Arena sur un combat contre Jordan, machin.
Ouais, à chaque fois, il met le truc en place, il fait le show.
Et tout le monde suit, c'est ça qui est fou. Ouais. Après, la majorité, en tout cas. Et ben on en finit pour ce débat de comptoir numéro 1, superflu, incroyable. On va faire une deuxième pause.
Donc on n'a pas de conclusion, c'est parfait.
Mais pourquoi faire les conclusions? On n'est pas non plus, on n'est pas sur rien.
C'est exactement ça.
Deuxième pause musicale, on revient tout de suite.
Ma radio.
Troisième partie. Bon, c'est moi qui ai repris. Hein. Je te grille la.
Très bien.
Peu importe.
De toute façon, c'est toi qui vas parler là.
C'est moi qui vais parler. Et oui, parce que là, c'est la troisième partie, le temps mort, l'histoire sympa, on a appelé ça. Comment on la présente, on s'en fiche aussi.
On va vous raconter l'histoire sympa du moment.
Voilà, donc.
C'est à peu près le moment le plus d'actualité dont on va parler en fait.
Oui, c'est vrai. Bah, ça va dépendre peut-être des. Oui. Voilà. Et ben moi, je vais vous parler d'un événement sur l'île de Grande-Bretagne. On la connaît. C'est un événement donc sur cette île. C'est quasi anonyme en France. Nous allons parler d'une Coupe du Monde. Incroyable. Deux fléchettes. Donc là, alors à l'heure où j'en parle, c'est fini. Hein. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai un sujet sur quelqu'un en particulier à parler. Mais voilà, c'est l'événement.
Ça s'est fini ce week-end en fait.
Ça s'est fini, ouais. Voilà, le week-end dernier. C'est l'événement qui a lieu en toute fin d'année, tous les ans pour le coup. C'est pas tous les 4 ans ou tous les 2 ans ou je ne sais quoi. Et je vais parler de la Coupe du Monde de fléchettes qu'on a pu voir en clair sur une chaîne que tout le monde a à la télé. Et quand on parle de fléchettes, pour ceux qui suivent un petit peu ou qui peuvent voir, il y a beaucoup de vidéos, enfin pour ceux qui sur les réseaux sociaux qui peuvent défiler un petit peu si on regarde un peu tous les sports. Je peux parler de Michael Van Gerwen, Gary Anderson, Phil Taylor qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, le GOAT. Luke Humphries plus récent, Gervin Price qui est un peu le fou, c'est un peu mon joueur préféré. Donc là je vois que les voilà, c'est
il est sympa.
Il est un peu taré, j'aime bien. Non, mais c'est, bah oui, moi je préfère les plus chiants. Donc, qui a été champion du monde aussi, enfin bref. Mais là, c'était les championnats du monde 2026, parce que ça finit sur le début d'année. Et donc, pardon, mais je vais vous parler aujourd'hui d'un autre joueur qui a donc gagné ces championnats du monde.
C'est pas la première fois en plus, il me semble.
C'est pas la première fois, parce que c'est un joueur qui est hors norme en tout point. Déjà, à l'heure actuelle, il a 18 ans. Et c'était sa 3e participation. Et en 3 participations, c'est 3 finales, dont la première, du coup, à 16 ans, qui était un record, du coup, déjà de la discipline. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette première participation, donc il est champion du monde junior. Donc c'est Luke Lickler, je vais quand même donner son nom.
Ah, répète, parce que t'es un peu fourché.
Luke Lickler.
Répète.
Luke Lickler.
Luke c'est compliqué, Littler, non
Littler. Non, Littler, parce que le TL, ça fait Clear en anglais, enfin selon l'anglais. Et depuis samedi, il est donc double champion du monde. Et en fait, ce joueur...
À 18 ans.
À 18 ans, voilà. Donc il est... Je vais y venir après. Je vais déjà revenir sur cette première participation. Donc il est déjà à cette époque champion du monde junior de sa discipline. Donc c'est donc il n'est pas complètement inconnu, mais il est dans les 100e places mondiales de la grande discipline. Et il arrive un peu en inconnu malgré tout sur ce championnat du monde et il claque tout le monde. Paf, jusqu'à la finale où là il se fait taper par Luke Humphries qui est le numéro 1 mondial, mais malgré tout. Inattendu complètement, c'était l'événement cette année-là de ce jeune de 16 ans, cet adolescent qui vient taper tout le monde et finir en finale. L'année d'après, 17 ans, il gagne, voilà. Il a sa revanche et cette année, il venait jouer pour un double-double, pour un back-to-back qui n'avait pas été vu depuis 2015, donc il y a 10 ans, et il l'a fait. Et donc ce jeune-là, aujourd'hui, il est, même si vous ne regardez pas forcément les fléchettes, vous avez forcément entendu parler de lui, je suis sûr que c'est le cas, Alex.
Hein, oui, j'en avais entendu parler.
Voilà, et c'est parce que ce gars, il est en Angleterre en tout cas sur toutes les émissions de télé. Il est fan de Manchester United, et ben même Manchester United a voulu le rencontrer. Les joueurs veulent le voir. Tout le monde veut un petit bout de Luke Lickler parce que c'est vraiment
c'est une star là-bas.
La star incroyable. Il était même l'année dernière sportif de l'année au niveau de l'Angleterre. Il est anglais. Et donc voilà, donc c'est en quelques années devenu une superstar par ses performances et par aussi sa personnalité, parce qu'il a malgré son petit âge, il a déjà une espèce d'aura, de charisme qui est assez impressionnant. Là, pour donner une anecdote, là sur ces championnats du monde, ça rejoint un petit peu le débat d'avant, c'est que là il gagne tellement qu'aujourd'hui il a déjà un petit peu ses détracteurs. Donc c'est pas que français du coup pour répondre à ça. Donc les Anglais aussi. Et là, notamment sur, c'est un show hein, malgré tout les fléchettes. Si vous avez l'occasion de regarder, c'est vraiment vous voyez cette mini cible avec une mini scène. Et derrière, il y a 5000 personnes qui sont comme des fous à l'anglaise avec de la bière en voiture. Voilà, ça va dans tous les sens.
C'est vrai qu'on a regardé ça l'autre jour et c'était assez dingue l'ambiance dans la salle. Pour des mecs qui lancent des fléchettes. Quoi.
Mais c'est assez bizarre parce que les fléchettes, bon, c'est un jeu de bar, c'est un jeu de plutôt posé, oui. Plutôt calme. Et là,
d'ailleurs, il n'y avait pas un maigre.
Il n'y a pas un maigre déjà. Même Lickler, 18 ans, il fait déjà ses 120 kilos, je pense. Mais voilà, c'est assez incroyable à regarder. Donc juste pour l'ambiance, c'est ce qu'on s'était dit, on ira peut-être un jour pour l'ambiance parce que c'est assez fou. Et tout ça pour dire, sur les présentations, c'est un peu comme la boxe, ils ont leurs entrées, chacun leur tour en fait, sur une musique toujours la même, et voilà, qui est un peu leur identité. Et sur l'entrée, c'était en quart de finale ou en demi-finale, bah, Luc Littler s'est fait huer, notamment sur cette entrée. Et pendant le match, il s'est fait huer à plusieurs reprises. Et du haut de ses 18 ans, il s'est pas démonté pour autant. Il est venu les provoquer par des gestes sur des flèches un peu de folie comme il sait faire. Et à la fin, il a déclaré sur l'interview de fin de match, bah, de toute façon, vous payez vos places. C'est pour venir me voir jouer, c'est pour aussi mon propre prize money. Donc continuez, ça me va très bien. Voilà, donc c'est en même temps. C'est un anglais, mais qu'est-ce qu'on en pense de cette phrase? Parce que moi, en l'entendant, je me suis dit ah quand même. Ah ouais, mais en même temps, c'est pas sale, je trouve.
Il
c'est
répond vrai. À de la provoque par de la provoque.
Ouais, mais c'est vrai en même temps, c'est même pas.
Bah, il a raison. Ouais. Voilà. Et après, ça, ouais. Cette décla, il l'a fait à 18 ans. Peut-être qu'à 38 ans, il l'aurait pas dit.
Bah moi, je la trouvais justement au contraire un petit peu pour son âge, je trouvais que c'était bien envoyé, parce que tu dis quand même il a porté ça, il s'est pas démonté, il s'est pas dit bon c'est un enfant 18 ans.
Oui, non, mais alors ça c'est sûr. Ah ben j'allais voilà. Te le dire, nous à 18 ans on était champions du monde de pas grand-chose. Ouais. Effectivement, ouais, c'est sûr qu'à 18 ans avoir une mentalité pareille, c'est incroyable, mais voilà, parce que il est fait du bois des champions.
Ah ben
enfin ouais, dont on fait les champions. C'est un génie. Ouais. C'est incroyable, il a un talent, il a un mental, c'est inouï.
Et puis oui, et puis même au niveau de son histoire, c'est un peu légendaire, c'est que son père lui aurait acheté une cible électronique à 18 mois. Et apparemment, déjà à 18 mois, il lançait un petit peu de manière assez dingue. Et à ses 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il faisait déjà des performances de professionnels sur les Nine Darters. Par exemple, c'est quand on finit le 501, enfin, on va pas rentrer tout là-dessus, en 9 flèches. Donc ça, c'est peut-être pas représentatif comme ça, mais il faut le faire, hein, c'est un truc un peu fou. Et voilà, il a vite été repéré, il a vite été. Et pourtant, c'est le genre de sportif, c'est pour ça que je parle de génie, qui ne s'entraîne pas, en fait. Là, ce championnat du monde, il y a des moments où on peut plus jouer pendant 2 jours. Bah, pendant 2 jours, il a joué à la Xbox, pour pas faire de pub, et il a rien fait d'autre, quoi. Il s'est pas entraîné pendant 2 jours. Voilà. Et il a gagné le championnat du monde haut la main. Sans tout ça.
Comme je te disais, il n'y a pas un maigre, il y en a pas un qui s'entraîne beaucoup.
Donc voilà, c'était en tout cas la petite histoire. Je sais pas ce que tu aurais pensé, Saï. Toi, tu disais que t'étais bien la fléchette. Hein, tu peux quand même. Ça, je me sens un peu tout seul à aimer les fléchettes. Si,
ouais, étonnamment. Il n'y a pas énormément d'action. C'est peut-être pour ça que derrière, il y a du temps de la fête.
C'est pour ça qu'il y a autant de pichets de bière sur les tables. Ouais.
C'est-à-dire étonnant. Enfin, je pense à la pétanque, par exemple. c'est très calme dès que ça tire. Il n'y a pas un bruit dans le public. Je trouve que c'est des sports de concentration quand même. Et je suis assez étonné que ce soit autant la fête et le bazar un peu derrière dans la salle, les mecs. Puis ils regardent la moitié des mecs. Enfin, c'est ça picole. Il y a une.
Ouais, c'est drôle.
C'est très à l'anglaise en fait. C'est vraiment. Il y a que les Anglais qui pourraient aimer. Enfin.
Ouais. Alors pour faire moi je me permettrais juste pour illustrer un petit peu, pour faire un parallèle. Ouais. Moi ça me fait penser un petit peu au frère Lebrun, l'histoire de ce gamin là. Ils sont sortis de nulle part, ils ont tapé tout le monde.
C'est ça.
Bon, alors lui pour le coup il a un peu plus de succès parce que les frères Lebrun on voit que face aux champions chinois ou japonais ils ont encore un peu du mal, mais.
Ils sont médaillés olympiques. Enfin, faut aller les chercher les médailles.
Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Mais lui pour le coup en sortant de nulle part il est devenu numéro 1 en 2-3 mouvements.
Et c'est un peu la question qu'on se pose autour de lui, c'est que malgré tout, il a que 18 ans, et puis aux fléchettes, il y a encore un joueur, c'était le plus vieux du championnat du monde, qui avait 72 ans. Donc lui, on se dit, où est-ce qu'il va aller? Parce qu'il est déjà double champion du monde. Et est-ce qu'il va en avoir marre? Est-ce que ça sera un craquage ou vous savez, ce genre de sportif qui craque et puis terminé? Est-ce qu'il va aller loin?
Qu'il aura plus faim au bout d'un moment?
Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que même dans 20 ans, il aura que 38 ans. Donc, aux fléchettes.
Il y a des champions qui s'arrêtent parce qu'ils ont plus faim.
Oui, c'est ça.
L'homme, quand il avait quitté le rallye, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Il avait plus trop faim non plus. Il a voulu aller sur d'autres choses.
C'est vrai, c'est plutôt une belle conclusion. Donc, on verra là-dessus.
Alors, faut qu'on continue. Alors, on va pas s'arrêter sur une bonne conclusion.
Faut conclure. Mais par contre, là, on va parler de musique. Et là, c'est toi, Saï, qui va nous la présenter, cette musique. Parce que c'est toi qui l'a proposé et c'est toi qui es dessus, je crois.
Tu parles donc de ce morceau-là. Ok. Qui est donc.
Il n'a que 3, donc c'est vite vu, c'est lui.
Voilà. C'est le dernier, The Last. Ok, ouais, c'est un morceau d'un groupe que j'avais avec des copains. Donc qui s'appelle le morceau Projet 999 du groupe My Name is Bud, qui était un groupe caladois. Maintenant, chacun a fait sa vie de son côté, d'autres groupes,
tout
ça.
Oui, il y en a qui sont aux States, il y en a qui sont... Enfin,
ça, exactement, d'ailleurs, je leur rejoins. J'ai un avion demain matin, là, ouais, je rejoins Monsieur Monet.
Petite dédicace, il fout, bien sûr.
Ah oui, voilà. Donc, dédicace aux copains de ce groupe, hein, ils se reconnaîtront.
Et toi, on t'entend sur quoi, du coup?
Et comment t'entends-toi? Je suis à la basse.
À la basse.
Sur ce morceau.
Pas trop haut, du coup. Enfin, bref.
Bass.
À tout de suite.
À toutes.
C'est bon ça, ce solo là.
Bah attends,
le flow.
Calade, ma radio.
L'avant-dernière partie, où on en est là?
Oui, l'avant-dernière partie.
Émission. C'est quoi cette émission? Superflu.
Superflu.
Incroyable.
Vous pouvez nous retrouver sur Instagram d'ailleurs, Superflu Radio.
Exactement, n'hésitez pas à nous partager des choses. Peut-être qu'à l'avenir, on essaiera de lire les messages si on a. Enfin, tout ça, des trucs comme ça, on essaiera de faire ces trucs là. Où on en est à la prolongue, parce qu'il y a toujours des prolongations chez nous.
Voilà, la prolongation, et donc on va parler de football un petit peu quand même.
Oui.
D'autant que
on a assez parlé de sport, donc
on a assez parlé de sport là pour le coup. Non, on va, c'est pas compliqué. Nouvelle année, l'événement sportif de l'année, ça va être la Coupe du Monde de football. Et je me dis qu'il est temps de se trouver un petit chouchou.
Le chouchou. Donc oui, le but c'est t'es plutôt qui t'as envie de voir gagner. Ouais.
C'est ça. Et donc on va quand même se mettre. Si c'est pas la France qui gagne, on a envie que ce soit qui gagne cette année. Ah. Bon, moi je retire l'Espagne puisque j'ai la binationalité, donc ce serait trop facile. Donc voilà, si c'est pas la France qui gagne, parce que bon, ce serait c'est pas toujours notre chouchou qui gagne. Hein, donc si c'est pas la France, on aimerait voir gagner qui. Et donc j'ai sorti quelques favoris. Donc le Mexique qui joue à domicile, la Norvège, Hollande. L'Italie, qui est pas encore qualifiée, mais qui a quand même des chances d'y aller. Le Brésil, le Maroc, l'Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Uruguay, l'Argentine, le Portugal, l'Angleterre. Il y aura presque tout le monde, en fait.
Le back-to-back de l'Argentine, je suppose.
Le back-to-back de l'Argentine, ça te chauffe, toi?
Oh, bah pourquoi pas. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien les locaux, et c'est vrai que j'aime bien le Mexique d'un point de vue perso. Après,
ouais, le Mexique qui a jamais passé les huitièmes de finale.
C'est vrai. Donc là, après, c'est aux États-Unis et au Mexique. Hein,
c'est États-Unis, vrai. Mexique et Canada.
Et Canada, mais c'est l'Amérique du Nord. Ouais.
J'ai pas mis les Américains, enfin les USA ni le Canada, parce que dans les favoris, parce qu'il faut quand même pas déconner. Oui. Mais le Mexique, pour le coup, a des chances d'aller loin.
Ouais, mais après le Mexique, bah pourquoi pas. Moi, j'ai envie de parler d'eux parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est quasiment tout le temps là aux Coupes du Monde. C'est un peu
Oui, mais pas longtemps.
Ouais, pas longtemps, mais on les voit tous les ans. On a toujours des petits noms qui nous restent. Enfin, ouais. Il y a ce côté un peu football, voilà. Enfin, ça reste un pays de football, le Mexique. Enfin,
c'est complètement.
André-Pierre Gignac pourra nous le dire, mais un peu moins Thauvin, mais faut pas les mêmes raisons.
Bah c'est surtout le Mexique qui direct Thauvin est pas forcément un joueur de foot, mais bon.
Ouais et puis bon il a ses petites casseroles là-bas, il a laissé deux trois trucs. Mais moi j'ai envie de dire le Mexique parce que pourquoi pas, ils sont chez eux et puis j'ai pas envie de parler des deux gros, donc les deux gros pays, je parle parce que niveau foot c'est pas trop ça, mais entre en soi le Canada et les États-Unis.
Voilà. C'est pas vraiment des pays de foot non plus d'ailleurs.
Non plus. Donc plutôt Mexique.
Et toi Simon? Un petit chouchou?
Pourquoi pas le Maroc, tiens.
Le Maroc.
Alors, pays d'Afrique, tiens.
Demi-finaliste de la dernière édition, le Maroc.
Ouais, contre la France.
Et pourquoi?
Eh ben, pour varier les plaisirs, bien évidemment. Varier les continents, varier les...
Ce serait le premier champion du monde africain.
Ouais, puis c'est vrai que ce Maroc-là, il a fait cette demi-finale, il a la CAN là cette année chez lui.
Et puis la Coupe du Monde suivante sera au Maroc, en partie.
Ah oui, ouais. C'est une info que j'avais pas.
Puisque et la Coupe du Monde 2030, donc après celle des États-Unis, voilà, aura lieu en Espagne, Portugal et Maroc.
Ah, d'accord. Ouais. Mais du coup, oui, donc le Maroc, et puis il y a une belle équipe, il y a Hakimi, il y a cette star-là, puis ça se développe bien, je trouve. Enfin, c'est du joli foot, c'est pas trop européanisé pour autant. Enfin,
pas mal, de plus en plus quand même.
Ouais, mais c'est pas encore non plus. Enfin voilà, ça garde un peu son âme là. Et puis ouais, c'est vrai que tu nous avais fait, pas rêver sur le Maroc il y a 3 ans, mais voilà, c'est bon, c'était pas mal quand même. Alex.
Moi, mon petit chouchou. Alors ça dépendra en fait. Ça dépend. S'il y a pas Neymar, j'aimerais bien voir le Brésil.
C'est
parce
vrai.
Que ça fait longtemps que le Brésil a pas gagné grand chose. Et puis le Brésil en plus. Il n'y a pas vraiment de stars. Et justement, c'est pour ça, c'est s'il n'y a pas Neymar, parce que j'aimerais bien avoir gagné une équipe où il n'y a pas vraiment de stars.
Ouais, Rodrigo.
Et Rodrigo, Vinicius. Mais là-bas, c'est pas non plus les Ronaldo, les Rivaldo, les Pelé et compagnie. Neymar, pour le coup, est la superstar du Brésil, mais je le trouve tellement antipathique et détestable que j'ai pas trop envie. Sinon, j'aime bien les Anglais, pas les Allemands du tout. J'aime bien les Anglais. Alors, c'est pas que j'aime pas les Allemands, ne me prenez pas. Mais j'aimerais bien voir gagner l'Angleterre parce que ça fait tellement longtemps, ça me ferait tellement plaisir. Et un mec comme Harry Kane, qui est un serial loser, le voir gagner un titre mondial, alors que c'est un attaquant fantastique.
Bon, il reste champion d'Allemagne quand même.
Il reste champion d'Allemagne. Et puis, il y a un petit côté où les Anglais champions aux États-Unis, je trouve que ça met un petit piquant au niveau historique. C'est pas piqué des hannetons.
Sir Donald, là, qui fout déjà un petit peu son merdier, hein, comme ils le font partout. Ça. Mais c'est un autre débat là-dedans. Parce que c'est vrai que le Donald, toute une histoire d'ego. Mais cette Coupe du Monde, est-ce qu'elle va faire rêver parce que c'est la Coupe du Monde et il y a le plus d'équipes déjà. Est-ce que c'est pas trop justement? C'est une petite question vite fait. Après on passe à autre chose.
Bah, le premier tour va pas être très intéressant parce qu'il y a des équipes qui vont prendre que des pipes. Après s'il y a des surprises, ça peut être sympa, mais
voir
le Honduras se faire défoncer, est-ce que ça va nous intéresser? Je suis pas sûr.
C'est ça. Il y a quand même des très 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 petites équipes. Il y a pas les îles Féroé,
Je suis pas sûr.
Non, c'est pas ça, mais il y a des petites équipes.
Non, mais il y aura des petites équipes qui ont rien à faire là et c'est sympa pour eux. Après c'est des athlètes qui sont à leur petit niveau, qui vont disputer une Coupe du Monde et affronter les meilleurs, c'est fantastique pour eux. Mais on a vu la dernière Coupe du Monde des clubs, un club néo-zélandais d'amateurs se prendre 10-0 contre le Bayern, ça n'a aucun intérêt.
Voilà, on a fait nos choix, ça sera à suivre. On refera des paris, on va certainement en reparler avant la fin de cette année. Enfin, pas de cette année, mais avant ses débuts. Donc voilà, en tout cas, c'est notre premier pronostic au mois de janvier.
C'est pas un pronostic, c'est ce qu'on aimerait bien avoir gagné.
Oui, c'est ça, exactement, attention. Et ça sera aussi sur ce sujet-là, toutes les émissions superflues. La dernière, c'est parti, qui n'a pas de nom, mais en tout cas, elle arrive. Donc c'est quoi? C'est la reco aussi, elle a un nom.
Elle a un nom, j'allais te le dire.
Et c'est pas la reconnexion, parce que ça voudrait rien dire.
C'est le retour au vestiaire.
La reconnexion. Ah oui, le retour au vestiaire, pardon. Putain, ça fait quoi, 10 ans qu'on fait cette émission?
Ça fait à peu près, non.
Non, ça fait exactement...
Ça fait 10 dizaines de minutes.
54 minutes, non, 10 secondes, incroyable, superflu. Bon, la reco.
Le principe, c'est qu'on va vous donner un petit conseil pour se dire au revoir.
Oui.
Donc voilà, moi mon petit conseil, c'est alors j'ai failli vous recommander le Ring Hockey Club de Glazé, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je trouve ça fantastique, il y a une super ambiance. C'est un sport qui est méconnu, alors que c'est super sympa. Le patin à roulette, c'est quelque chose. Voilà. Donc en fait, pour je vous explique, c'est du patin à roulette sur des. Pardon, je recommence.
C'est la recommandation surtout.
C'est du hockey.
Je suis sûr qu'il y en a qui se disent, mais c'est quoi la reco?
La reco, c'est la recommandation. Voilà. Donc j'allais vous recommander le Ring Hockey. C'est du hockey sur des patins à roulette. Oui. Voilà, c'est le truc qu'on a tous fait quand on était gamin, et c'est super sympa. C'est pas dangereux comme le hockey sur glace, tout ça. Mais en ce moment, il fait trop froid, donc je me suis dit que c'était pas un bon conseil pour vous. Mais allez-y dès qu'il fera meilleur. Moi, mon conseil,
c'est au Palais des Sports.
C'est au Palais des Sports, voilà, la Villefranche.
Oui.
Moi, mon conseil, ils sont super sympas en plus. Ma recommandation de la semaine, c'est un livre. Ventre mou, il fait vraiment un temps à se mettre dans un plaid à bouquiner. Donc ça s'appelle Ventre mou, la vraie vie d'un joueur de Ligue 1. Écrit par Michael Graal, c'est publié par Hachette, et c'est, en fait, c'est un joueur, on ne connaît à aucun moment son nom, on sait pas qui c'est. Il nous raconte un peu qu'il a joué dans des clubs de bas de tableau de Ligue 1, de milieu de tableau de Ligue 2, et en fait, il nous raconte son quotidien à lui, sa femme, sa famille, qui gagne uniquement, alors vous allez me dire uniquement, oui, bah, entre 2 et 3 000 euros, mais qu'en fait, quand on te dit le jour au lendemain, il faut que tu déménages à l'autre bout de la France.
Exactement.
En fait, voilà, il raconte son quotidien avec la peur de la blessure, de la perte de contrat, ça. Ça nous change, en fait, de l'habitude, de l'image qu'on a habituellement des footballeurs.
C'est vrai que c'est passionnant. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à ces footballeurs qui sont beaucoup moins, comme d'ailleurs les semi-pros de Villefranche. C'est qu'aujourd'hui, ils gagnent pas non plus des masses. Ils sont logés, bon, d'accord.
Ils peuvent être prêtés, on leur demande même pas leur avis. Ils ont pas leur mot à dire. Dès qu'ils sont blessés, c'est le risque de fin de carrière et je sais plus quoi faire derrière. Ils ont quasiment jamais été à l'école. Enfin, ils racontent tout ça. Et d'ailleurs, c'est le gros des footballeurs. Nous, on connaît les Neymar et compagnie qui gagnent des millions.
C'est ça.
Mais en fait, il y en a 10 comme ça ou 20. Mais le plus gros des joueurs de foot.
Le pourcentage n'est pas très haut sur les millionnaires.
Et lui, il raconte en fait le quotidien du gros des joueurs de foot, semi-pro ou pro, et c'est passionnant.
C'était ta reco, un livre à trouver sur toutes les belles librairies, comme on dit sur
les jeunes radios. On le trouve encore dans nos belles librairies ou sur Internet, on le trouve encore.
Oui, voilà. Moi, je vais faire une reco rapide parce que le temps passe. Moi, je voulais parler à la limite de la LDLC Arena sans faire trop de pub. C'est juste pour parler surtout de l'ASVEL qui joue là-bas depuis l'ouverture de cette petite salle. Petite, parce qu'à côté du Groupama Stadium qui est énorme, c'est vrai qu'on la voit un peu moins.
Et elle est belle.
Elle est belle parce que c'est une salle de spectacle où toutes les plus grosses stars du monde ils passent là, chacun leur tour. Et en autre star d'un peu plus ce sport, c'est l'ASVEL qui joue pour l'Euroleague uniquement. Donc, mais ils jouent régulièrement l'Euroleague, donc c'est vrai qu'ils sont souvent là-bas. Et j'y suis allé à plusieurs reprises face à des grosses équipes comme le Barça notamment, et c'est vraiment une belle ambiance. Et cette salle, elle est suffisamment bien faite pour avoir une belle vue de partout, peu importe où tu es, et tu es dans l'ambiance, pareil, peu importe où tu es. Donc c'est un petit peu la reco que je pourrais faire. Ça reste local, hein, on se dit. Et puis voilà, les places sont pas si chères malgré tout par rapport au foot aujourd'hui par exemple, ou quand on veut voir un concert aujourd'hui, tu seras d'accord, ça y est, hein, c'est quand même exorbitant d'aller voir un concert. Là, c'est un joli spectacle. Il y a surtout un speaker qui est incroyable, qui est même reconnu aujourd'hui par rapport à ce qu'il présente. Pourtant, c'est pas ceux qu'on parle en premier. Et voilà, c'est un joli show si ça vous dit de faire un tour là-bas.
Puis au basket, il se passe toujours des trucs.
C'est ça. C'est toujours une belle ambiance. Ça reste le club de Tony Parker. Voilà. Est-ce que tu as une petite reco rapide ou pas forcément?
Une petite reco, faites du sport. Faites du sport, dépensez-vous.
Surtout après, pas des fléchettes, ça vous aidera pas à être en bonne santé.
C'est vrai que t'as rien dit, du coup, j'attendais.
Après, surtout après ces fêtes, là. On a bien accumulé, donc voilà.
La recommandation santé, du coup. C'est pas mal.
Voilà, un petit foot seul entre copains.
C'est la dernière.
Ce sera la seule ce soir. Eh ben, en tout cas, moi, j'ai envie de dire, c'était belle première. Superflu. Donc, on sera là, en direct.
Oui. Les mercredis à 20h, normalement.
Voilà, si ça change pas, et puis peu importe, de toute façon, ça vous regarde pas. Et on vous tiendra au courant sur les réseaux, sur le site internet, radio-calade.fr. Ouais,
alors sur les réseaux, c'est Instagram en fait, c'est Superflu Radio.
On a une chaîne YouTube quand même.
On a une chaîne YouTube.
Et oui, bien sûr,
c'est vrai.
Une chaîne YouTube, mais quand il y aura des vidéos, on les mettra.
Et les podcasts devraient être disponibles sur Spotify.
Exactement. On vous dit bonne soirée.
Voilà, on
à la
vous
prochaine.
Remercie. À la prochaine.
Bonne soirée. Bonne soirée. Les petits bips, tiens, qui disaient la fin, je les ai oubliés. Bon, on va faire comme si c'est la fin, etc. Bon, bonne soirée à vous.
À la prochaine.
À la prochaine.
À plus.